Vous écoutez France Culture.
Dime que son los secretos de tu alma. Dime cuál es el camino de tu divino amor.
Les racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar, réalisée par Véronique Villa, préparée par Marie Dalquier, avec à la technique Éric Boisset et Clément Wiatrowski. Aujourd'hui, nous recevons Patrick Vivray pour parler de la cause humaine. Patrick Vivray, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien professeur de philosophie. Vous avez réalisé plusieurs missions pour différents gouvernements sur l'évaluation des politiques publiques en France ou sur une nouvelle approche de la richesse. Et vous venez de publier « La cause humaine du bon usage de la fin du monde » aux éditions « Les liens qui libèrent ».
De la fin d'un monde.
D'un monde, exactement. Bon lapsus. Effectivement, nous vous avions déjà reçu il y a un an. On avait déjà abordé toute cette question de la crise et de ses significations. Et vous nous aviez beaucoup parlé à l'époque, et je sais que ça avait marqué un certain nombre d'auditeurs, de cette situation contemporaine de l'homme moderne, en la comparant à ce mythe de l'hubris dont parlent les anciens Grecs. Et j'aimerais qu'on reparte de là, et puis on ira plus loin au cours de l'entretien. Rappelez-nous un petit peu ce que c'est que cette démesure, cette hubris, et pourquoi vous pensez que c'est un des traits fondamentaux de notre époque.
Oui, cette démesure, elle est en facteur commun des différents aspects de ce qu'on appelle à tort une crise, parce qu'une crise qui dure plusieurs décennies n'est plus une crise, c'est une grande transformation. Pour utiliser le terme de Karl Polanyi. Et quand je regarde la facette écologique, la facette sociale, la facette financière de cette transformation, dans leur part négative, je trouve la démesure. La démesure, elle est au cœur du problème écologique. Le dérèglement climatique, en tout cas la part humaine dans la responsabilité du dérèglement climatique, le fait de gaspiller des ressources fossiles accumulées pendant des millions d'années en quelques générations, c'est de la démesure. De la même façon, quand vous avez la fortune personnelle de 225 personnes qui est égale au revenu cumulé de 2,5 milliards d'êtres humains, on est dans la démesure sur le plan social. Et dans le domaine financier, l'insoutenabilité financière dans laquelle nous sommes rentrés, elle est révélée par le fait que sur les transactions financières quotidiennes, moins de 3% correspondent à des biens et des services réels. Donc on a ce phénomène de la démesure, et ce que je trouve important de rappeler, c'est que de la même façon que sur le plan individuel, lorsqu'il y a des mesures, il y a un signal fort de mal-être et de mal de vivre. La toxicomanie, la boulimie, l'alcoolisme sont des indicateurs de mal-être. Et on peut aussi en faire la démonstration sur le plan sociétal. Si je reprends par exemple la question financière, quand le Wall Street Journal, dans un éclair de lucidité, écrit « Wall Street ne connaît que deux sentiments, l'euphorie ou la panique », c'est exactement la définition de la psychose maniaco-dépressive. Et d'ailleurs, le traitement de la psychose maniaco-dépressive, comme il provoque une perte de contact avec le réel, notamment le réel économique, il induit des mesures de curatelle ou tutelle. Donc ce sont des problèmes de santé publique. C'est bien que le couple des mesures mal de vivre est au cœur de la facette négative de notre transformation. Et c'est ce qui permettra, dans la phase positive, je pense qu'on en reparlera après, de mettre en place un autre couple qui est formé par la simplicité et la joie de vivre, ce que Pierre Rabhi appelle par exemple la sobriété heureuse, c'est-à-dire accepter des limites face aux logiques de démesure, mais travailler aussi sur la cause de la démesure, qui est la question du mal-être, de la maltraitance, du mal de vivre, parce que si on ne travaille pas sur ce second terrain, on ne répond pas au problème majeur de l'origine de la démesure.
Alors, on va bien sûr revenir sur des propositions constructives. Je voudrais rester encore un tout petit peu sur le constat de ce qu'on est en train de vivre actuellement et des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Vous avez une phrase très forte, hein, vous dites dans votre ouvrage, finalement, le capitalisme financier a réussi à faire ce que Ben Laden n'avait pas réussi à faire, c'est-à-dire détruire le cœur de notre civilisation.
Oui, tout à fait. Quand on fait un retour sur le fameux 11 septembre 2001, on voit bien que rétrospectivement, c'est ce que Robert Reich, qui a été un des ministres de Bill Clinton, a appelé l'hypercapitalisme, qui détruit à la fois le cœur social d'une société. Parce que quand vous avez, par exemple, une destruction des classes moyennes à cause du creusement des inégalités, c'est le cœur même d'une société qui se trouve atteint, mais c'est aussi le cœur éthique et spirituel. Ces fameuses valeurs auxquelles se réfère l'Occident, notamment dans son rapport au christianisme, elles sont directement attaquées par une logique où l'argent, au lieu d'être un simple moyen au service de l'échange et de la création de richesses, devient une finalité en soi. Ce que toutes les grandes sagesses, toutes les grandes spiritualités ont toujours évoqué comme une alerte rouge. Hein. C'est l'histoire du veau d'or dans la Bible, c'est la fameuse phrase de l'Évangile sur « Il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le chat d'une aiguille », c'est la condamnation dans l'islam, etc. etc. Donc le cœur éthique et spirituel se trouve de fait attaqué par la démesure du système financier.
Et pour vous, à quel moment ça a basculé vers ça? Est-ce que c'est dès la naissance du capitalisme ou c'est plutôt un phénomène qui s'est lié dans les années 70 avec les théories de Milton Friedman sur la maximisation du profit?
Oui, le moment où ça bascule vraiment dans le sens de l'hypercapitalisme, c'est à partir des années Reagan. Et c'est la mondialisation des politiques de dérégulation qu'exprimera ce qu'on a appelé le consensus de Washington. Et de ce point de vue-là, c'est intéressant de ne pas tout confondre sous le terme de capitalisme. Alors, ce n'est pas facile parce que aussi bien les marxistes que les libéraux ont tendance à mettre dans le même sac le marché et le capitalisme, les uns pour le diaboliser, les autres pour l'encenser. En réalité, il y a une différence très profonde. Un marché, il appelle nécessairement une logique de régulation. Pour qu'il y ait un vrai marché, il faut qu'il y ait de la paix, il faut qu'il y ait du droit. Donc de la régulation politique et de la régulation juridique. Et le temps, par exemple, des 30 années d'après-guerre a été un temps d'économie avec marché, parce qu'il y avait d'autres formes économiques, l'économie plurielle, l'économie publique, l'économie sociale et solidaire est également présente, mais dans un espace de régulation. Le capitalisme, lui, il n'est pas dans une logique d'échange, il est dans une logique de puissance dominatrice et il se nourrit de la dérégulation. Et si on laisse le capitalisme aller jusqu'à ses extrêmes limites, eh bien, comme le disait Fernand Braudel, le grand historien de la longue durée, on a y compris une destruction des marchés. C'est le phénomène des trusts et des monopoles. Alors, à l'époque industrielle, ça s'appelait Standard Oil. À l'époque informationnelle, ça s'appelle Microsoft du côté informatique et Goldman Sachs du côté financier. Mais c'est une logique qui est très profondément différente de celle d'une économie de marché régulée. Et le drame des années Reagan et de leurs conséquences, c'est que nous ne sommes plus en économie de marché. marché. Et cet hypercapitalisme, il est saisi par sa propre démesure. Parce que si on remonte plus loin dans le temps, la passion de richesse, comme toute passion, elle a besoin d'être compensée. Alors dans les pays latins, par exemple, qui sont toujours méfiés de la richesse, la compensation était du côté des pouvoirs publics. Mais du côté des pays anglo-saxons, il y a une régulation invisible qui s'est mise en place, qui était la régulation par le puritanisme. Et ça, c'est tout ce que Max Weber avait mis en évidence dans Éthique protestante et Esprit du capitalisme, c'est que le capitalisme se régule de l'intérieur à partir du moment où il y a un interdit sur la jouissance de la richesse, paradoxalement. D'un côté, on est incité à jouir. Ça peut même être un indicateur de salut dans une théorie de la prédestination. Et de l'autre côté, on n'a pas le droit de jouir de cette richesse. Dans les conditions de l'épargne et de l'investissement, de l'accumulation du capital, se trouvaient réunies. Mais à condition que la logique puritaine fonctionne. Et l'un des grands basculements, c'est quand on passe du capitaine d'industrie puritain, qui réinvestit ses bénéfices dans son entreprise, à la figure du financier avide, pour reprendre une expression de Joseph Stiglitz dans son livre Le triomphe de la cupidité. Parce qu'à ce moment-là, cette régulation invisible ne fonctionne plus.
Et alors aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait réguler cette finance devenue un peu folle? Est-ce que ça peut venir de l'intérieur ou ça peut être qu'une action des politiques qui impose un mode de régulation des échanges financiers ou des règles dans le monde bancaire? Quelles solutions vous voyez pour essayer de rapporter de la régulation?
Alors, d'abord, il faut bien comprendre que ce problème de régulation doit être traité aussi comme un problème médical. Hein, c'est-à-dire que c'est un problème de curatelle et de tutelle, ce n'est pas simplement un problème de régulation juridique, c'est-à-dire il faut aussi comprendre les logiques de mal-être et de maltraitance qui sont derrière la démesure financière. Par exemple, quand on reste obsédé par les logiques de compétitivité, pour prendre l'actualité récente, eh bien la conséquence de l'obsession de la compétitivité, c'est que du côté des perdants de la compétitivité, on a des sociétés en miettes. Le Mali a été un des grands perdants des logiques de compétitivité au cours de ces dernières années. Et le résultat, c'est que nous avons une société en état de chaos, une société sans État, et avec toutes les conséquences tragiques que ça entraîne par ailleurs. Donc il ne faut pas isoler la question financière de la question culturelle, éthique et spirituelle, qui est que quand on est dans l'obsession de la compétitivité, l'argent devient le seul marqueur de cette réussite. Et donc, quand on parle de régulation, ce n'est pas simplement aller mettre quelques règles du jeu, c'est aller attaquer en profondeur le ressort même du vivre ensemble de nos sociétés. Et ça veut dire à ce moment-là que c'est autant, et je dirais même davantage, un mouvement qui vient du cœur de la société monde, de la société civile mondiale, que des seules classes politiques, parce que les classes politiques, elles sont elles-mêmes souvent aspirées, habitées, malades du modèle compétitif. Et c'est pas par hasard si ce sont les classes politiques qui ont, de fait, accompagner souvent de façon volontaire cette dérégulation au cours des 35 dernières années.
Mais alors là, vous posez un problème de fond immense, parce qu'évidemment, toute la logique dans laquelle on est rentré depuis 30 ou 40 ans dans ce processus de mondialisation où toutes les frontières sont tombées, c'est qu'on a mis le monde entier en concurrence. Donc on est effectivement, le monde est devenu une vaste entreprise où tout le monde s'est en concurrence les uns contre les autres. Et si dans un pays, des individus plus éclairés décident de sortir de cette logique de compétitivité, ils ne sont plus effectivement compétitifs par rapport à d'autres. Et ce sont des produits chinois ou autres qui vont venir concurrencer des entreprises françaises qui du coup feront faillite et créeront du chômage, etc. Donc ce que vous dites, est-ce que ce n'est pas finalement une sorte d'utopie, même si elle est vraie, et dans la mesure où il faudrait que, d'une certaine manière, tout le monde rentre dans ce désir de sortir de cette logique de compétitivité. Si certains le font de manière un peu isolée et qu'ils restent dans ce système concurrentiel mondial, ils vont complètement être mis au bord de la route.
Je ne crois pas que ce soit le cas. Et je pense même que ce qui est en train de se passer, c'est qu'alors même que cette logique guerrière, parce que derrière la compétitivité, c'est à terme une logique guerrière, elle finit par produire des situations de détresse, voire de chaos social. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller voir ce qui se passe, y compris dans ces situations de détresse, et comment l'énergie de vie, l'éros, est capable de s'exprimer et de voir se développer des logiques de coopération. Je pense beaucoup à ce livre magnifique de Bénédicte Magnier, qui vient de sortir « Un million de révolutions tranquilles », et qui, à la suite d'une enquête de 2 ans, montre comment dans le monde entier, des personnes ou des groupes qui étaient confrontés à des situations de détresse liées aux conséquences de la logique de guerre économique s'auto-organisent pour reprendre pied sur les besoins vitaux. Par exemple, comment dans une ville comme Détroit, sinistrée aux États-Unis par la crise automobile, où les 2/3 de la population est partie, ceux qui n'avaient pas les moyens de partir, les pauvres et les noirs par exemple, ont réinvesti les friches industrielles pour en faire des potagers urbains et en traitant le problème de la nourriture, ils ont recréé un tissu social, ils ont même recréé un tissu culturel, parce que l'occasion aussi de faire la fête s'est trouvée réunie à cette occasion. Et vous avez quantité d'initiatives et sur tous les terrains fondamentaux du vivre ensemble. Et ça, ça se passe en même temps que les logiques régressives et le changement de regard sur ce qui se passe du côté de la force de vie est aussi important que la lucidité sur ce qui se passe du côté des logiques destructrices et mortifères.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel en compagnie ce matin de Patrick Vivray. Nous parlons avec lui de son dernier ouvrage, La cause humaine. Patrick Vivray, juste encore un petit mot sur cette question donc d'un nouveau modèle de société auquel vous appelez face à cette mondialisation financière qui a mis la compétitivité, la recherche du profit au-dessus de tout. Vous parlez aussi dans votre ouvrage d'une sorte de résilience collective. C'est-à-dire vous utilisez l'expression de Boris Cyrulnik, de la résilience de ceux qui ont vécu des crises personnelles très fortes pour essayer de rebondir et de s'appuyer sur ces épreuves pour aller plus loin. Et comment est-ce que vous considérez cette résilience d'un point de vue collectif ?
C'est ce que, par exemple, lors des états généraux de l'économie sociale et solidaire qui se sont tenus il y a peu de temps, nous avions appelé le trépied du rêve, c'est-à-dire le rapport entre le R de la résistance, mais qui est à ce moment-là une résistance créative, qui n'est pas une révolte désespérée, le V de la vision transformatrice qui débloque l'imaginaire et le E de l'expérimentation anticipatrice qui fait que sans attendre, on peut déjà, avec tous ceux et toutes celles qui le peuvent et le veulent, réaliser un certain nombre de transformations anticipatrices. C'est quelque chose qui nous vient de loin. Si j'évoque par exemple le capitalisme de la fin du 19e siècle, qui lui aussi a été extrêmement brutal, il suffit de relire Zola pour s'en convaincre, eh bien le mouvement ouvrier, alors même qu'il était illégal dans ses formes, il pratiquait la résistance contre les formes d'insoutenabilité inhumaine de ce capitalisme, le problème des enfants, le problème des femmes, par exemple. Il a ouvert des perspectives qui, à l'époque, paraissaient complètement utopiques. Par exemple, parler d'un projet de sécurité sociale pour tous, ça paraissait complètement utopique. Et sans attendre expérimentation anticipatrice, les bourses de travail, les caisses de secours mutuelles. C'est la même chose aujourd'hui. On a besoin à la fois de redébloquer l'imaginaire, c'est ce que j'appelle la stratégie du désir face aux effets de sidération. Et la première fois où le thème « Un autre monde est possible » a commencé d'être lancé, il a ouvert cet imaginaire souvent bloqué. Ça, c'est le V de la vision transformatrice. Il y a des résistances et des résistances créatrices un petit peu partout. Et puis, il y a aussi ces expérimentations. Ce qui est important, c'est de lier les trois. Parce que si vous avez de la résistance sans vision ni expérimentation, bah assez vite, elle tourne effectivement à une lutte désespérée. Si vous avez uniquement de la vision, bah vous pouvez vous lever tous les matins en disant « un autre monde est possible, mais c'est un horizon qui s'éloigne en permanence ». Et si vous n'avez que de l'expérimentation, aussi créatrice et aussi passionnante soit-elle, mais qui se coupe de la résistance et de la vision, ben, il y a un moment où vous êtes simplement dans la limitation de la casse du système dominant, voire même son instrumentation. C'est comme ça que des initiatives passionnantes telles que le microcrédit, par exemple, sont maintenant utilisées par les mêmes banques qui refusent de faire crédit aux populations les plus pauvres, mais qui ont des plaquettes magnifiques et qui vous expliquent qu'elles sont en partenariat avec la Grameen Bank au Bangladesh. Et là, on est plus proche de ce qu'on pourrait appeler un nouveau trafic d'indulgence que de véritables transformations. Donc c'est ce trépied-là qui me semble fondamental et qui est en train de se mettre en place.
Lélie Envar, bonjour.
Bonjour. Oui, mais alors, la difficulté que j'ai dans le constat que vous faites et dans les propositions que vous donnez, c'est que il me paraît très difficile, d'ailleurs Frédéric l'a évoqué en parlant de la mondialisation des choses, il me paraît quand même très difficile de gérer les communautés humaines en tant que communauté, comme si on pouvait changer une communauté dans son ensemble. J'ai quand même l'impression que ce dont vous parlez, ce sont des choses très... C'est pas du microcrédit, mais c'est du micro-transformation, et qui sont quand même très liés à des individus. Alors parfois, c'est des groupes d'individus qui se mettent ensemble, comme l'exemple que vous avez donné à Détroit. Mais comment on peut passer de cette phase individuelle, qui est la seule, à mon sens, possible et jouable, c'est-à-dire qu'on ne peut que se changer soi-même individuellement, et on ne peut pas changer la société. En ce sens, je suis beaucoup moins optimiste que vous. Donc, mais pour vous, comment on peut passer de cette... du désir de l'individu à un désir collectif, sachant que la collectivité est faite quand même de puissances extrêmement négatives, quelquefois.
Alors, d'abord, il faut bien voir que dans les expérimentations que je cite ou que Bénédicte Magnier cite dans son livre, ce n'est pas des micro-expérimentations. Quand vous allez dans le Rajasthan et dans cette zone qui était devenue désertique et que vous voyez une espèce de Normandie, ça touche 700 000 personnes. Les exemples à propos de villes comme Détroit, c'est pareil, ça touche des centaines de milliers de personnes. Donc il ne faut pas croire qu'on est simplement dans du micro social. D'autre part, c'est toute la thématique qu'on avait commencé à développer au Forum social mondial de Porto Alegre. Les forums sociaux mondiaux sont un bel exemple de ces espaces où la société civile mondiale cherche à construire justement des logiques de vie, de ce qu'on avait appelé l'axe TPTS, c'est-à-dire transformation personnelle et transformation sociale, doivent être considérées comme complémentaires et non pas antagonistes ou successives. Est-ce qu'il y a des transformations sociétales de grande ampleur qui peuvent se produire? La réponse est oui. Prenez l'exemple d'un débat qui est un débat français en ce moment, mais qui s'est de fait un débat international, la question du mariage pour tous. Voilà une transformation absolument fondamentale par rapport à la logique du mariage pour raison de transmission sociale, qui vient d'une rencontre improbable entre une forme de graine subversive semée par le christianisme à la fin du premier millénaire et puis une classe ouvrière à la fin du XIXe siècle. Parce que la graine subversive, c'est ce conflit entre la papauté et le roi de France. Le roi de France voulant répudier sa femme au motif qu'elle n'était pas féconde, ce qui, en droit féodal, on dirait aujourd'hui avec les termes modernes, en logique de filiation, était parfaitement recevable. Et l'Église qui dit non, ce qui fonde le mariage, c'est l'amour. Certes, l'amour devant Dieu, etc., mais c'est l'amour. Alors, cette graine-là, elle va travailler en profondeur les sociétés et elle va réapparaître à la fin du XIXe siècle avec une classe ouvrière qui, à la différence de la paysannerie et de la bourgeoisie, n'a pas de problème d'héritage et qui va aller rechercher en quelque sorte cette espèce de graine culturelle qui a été porté par le christianisme et inventé le mariage amoureux. Et ce mariage amoureux, en quelques générations, c'est très peu à l'échelle du temps historique, va se généraliser dans nos pays, au point qu'aujourd'hui, même dans des milieux extrêmement conservateurs, l'idée d'imposer à ses enfants un mariage pour raison sociale paraîtrait complètement inacceptable. Cette question-là, c'est une question qui est mondiale. Vous allez en Inde aujourd'hui, on sent bien que l'un des éléments clés de l'émancipation des femmes passe par le changement du statut du mariage. Paradoxalement d'ailleurs, le point commun qui finit par réunir les protagonistes de débats souvent conflictuels, c'est la qualité d'amour, la qualité relationnelle. Quand on dit par exemple, certes c'est mieux d'avoir un couple hétérosexuel qui s'aime pour un enfant, ce qui est une évidence, mais entre un couple hétérosexuel qui est dans la maltraitance et un couple homosexuel qui est dans la bienveillance et qui s'aime, le débat est beaucoup plus complexe. Donc on voit que la qualité relationnelle, la qualité d'amour, elle est tout autant présente dans nos sociétés. Rifkin vient de publier un ouvrage entier sur l'empathie, Jacques Lecomte sur la question de l'homme bon, tous les nouveaux travaux qui font apparaître qu'on n'est pas dans la logique où l'homme serait en soi égoïste, individualiste, etc. Il est ambivalent, il y a ces deux éléments. Et donc si je prends le terrain social, ces forces-là, qui sont des forces d'empathie, elles traversent aussi le terrain des sociétés, pas simplement le terrain personnel. Et quand j'évoquais tout à l'heure l'alternative aux logiques de compétitivité, si je prends le mariage pour tous, si je prends la réconciliation franco-allemande, pour prendre deux exemples dans l'actualité récente, on comprend bien que c'est plutôt en allant du côté de ces logiques de paix plutôt que des logiques de guerre qu'il y a un mouvement social qui peut être alternatif au chaos. Parce qu'il ne faut pas oublier l'autre aspect, qui est la lucidité tragique, c'est que si nous n'allons pas dans cette direction, les logiques qui ont conduit au chaos des années 30, elles sont aussi en place. Si, par exemple, du fait de nos programmes d'austérité, nous mettons en cause les formidables amortisseurs sociaux de nos systèmes de protection sociale qui font qu'aujourd'hui, avec des taux de chômage équivalents, on n'a pas la misère ou le chaos des années 30, si nous les mettons en cause, eh ben, les mêmes éléments qui conduisent à ce que Reich appelait la peste émotionnelle et qui font qu'à ce moment-là, les réflexes xénophobes, identitaires, démagogiques se mettent en place, ils se produiront. Donc cette exigence-là, ce n'est pas une exigence utopique, je dirais, c'est une urgence politique et sociale pour éviter aussi le chaos de nos sociétés.
Je voudrais vous relancer sur cette question à travers celle qu'on utilise constamment aujourd'hui dans le débat sur la croissance. On voit bien qu'on vit une crise de la croissance économique et tous les politiques nous disent il n'y a qu'une solution pour en sortir, c'est le retour de la croissance. Or, j'imagine évidemment, avec la conscience que vous avez écologique, que la croissance faisant aussi partie du problème global de la crise systémique, puisque bien sûr, plus on produit, plus on tape sur les ressources naturelles, plus on pollue, plus on crée de l'effet de serre, etc., plus on va droit dans le mur sur le plan écologique. Comment est-ce qu'on pourrait, à votre avis, éviter d'aller dans toutes ces catastrophes écologiques annoncées en trouvant une solution autre que celle de la croissance ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a des possibilités aujourd'hui sociales, collectives, pas encore une fois que pour quelques individus isolés, mais collectivement, est-ce qu'on peut faire de la pédagogie pour dire la croissance n'est pas la seule solution et vers quel autre modèle, encore une fois, de développement et de société on peut aller ?
Alors, d'abord, c'est important de bien savoir de quoi parle-t-on quand on évoque la croissance. Parce que ce qu'on évoque sous le terme de croissance, c'est quelque chose de très précis et de très particulier, qui est la croissance mesurée par le produit intérieur brut, donc cet agrégat comptable qui rassemble l'ensemble des valeurs ajoutées monétaires, indépendamment de la nature des activités. Donc, dans la croissance, vous pouvez avoir des accidents, des pollutions, des régressions majeures, mais qui vont générer des croissances du produit intérieur brut, parce qu'il va falloir réparer, remplacer, indemniser. Donc, il faut toujours se dire que quand on est dans l'obsession de la croissance, on est en présence d'un thermomètre qui nous rend malade. C'est-à-dire, on ne sait pas quel est l'état réel, l'état de santé d'une population, puisque vous pouvez faire grossir le PIB par l'économie du crime, par l'économie de la drogue, par l'économie de l'armement, et inversement, vous avez quantité de fonctions qui sont non seulement utiles, mais même nécessaires et vitales, à commencer par donner la vie, à commencer par toutes les fonctions du bénévolat, qui, elles, ne sont pas prises en compte dans cette fameuse croissance du PIB. Donc la première des choses, c'est tout le débat sur la question des nouveaux indicateurs de richesse, mais qui était un débat qui, depuis 10 ans, a progressé. Hein. Tout le monde a entendu parler des travaux de la commission Stiglitz, qui était une commission internationale. Il y a plusieurs débats des Nations Unies qui, maintenant, disent qu'on ne peut plus continuer avec cette représentation-là de la croissance. Alors ça, c'est important de distinguer les choses, parce que vous pouvez avoir quantité d'autres formes de croissance que la croissance au sens du produit intérieur brut. Il y a un économiste qui mérite d'être revisité, c'est John Stuart Mill. John Stuart Mill, il a beaucoup travaillé sur ce qu'il appelait l'état stationnaire. L'état stationnaire, disait-il, c'est le moment où il y a une saturation des formes de croissance matérielle dans les sociétés. Parce qu'à partir d'un certain moment, les biens matériels se retrouvent relativement saturés. Et disait Stuart Mill, c'est considéré comme une catastrophe par nombre d'économistes, mais ça peut être une bonne nouvelle pour les sociétés. Parce que cette saturation de la croissance matérielle ouvre la voie à d'autres formes de croissance, d'autres formes de développement, d'autres formes de progrès qui sont dans le domaine artistique, dans le domaine moral, dans le domaine spirituel. Regardez par exemple, si je reprends le débat autour du mariage pour tous, la façon dont on sème dans nos sociétés. Voilà l'une des grandes questions auxquelles l'humanité est confrontée. Tous les problèmes que rencontre l'humanité sont des dégâts collatéraux de la difficulté qu'a notre espèce à mieux s'aimer. Toutes nos traditions de sagesse et nos traditions spirituelles, elles nous disent ça depuis des siècles et des millénaires. Eh bien, pouvoir consacrer davantage de temps à la qualité d'amour, à la qualité de joie de vivre, à la qualité de créativité, sont des éléments qui, selon John Stuart Mill, seraient libérés par une saturation de la croissance matérielle.
Mais j'entends très bien tout ce que vous dites. En même temps, on va vous répondre. Oui, c'est très bien ce que vous dites. Mais concrètement, aujourd'hui, une décroissance, ça produit des millions de chômeurs de plus. Et ces gens-là, vous n'allez pas leur dire eh bien, découvrez le bonheur de la sobriété heureuse, apprenez à méditer, alors qu'ils sont dans une situation sociale et des fois économique qui peut être dramatique.
Mais c'est parce que on est dans une sainte trinité qui est la croissance, l'emploi et la compétitivité. Et la caractéristique de cette triple croyance, puisqu'il y a beaucoup plus de croyances qu'on le croit dans le domaine économique, c'est qu'on est en présence de moyens qui sont devenus des fins. Parce que la croissance, mais quelle croissance ? L'emploi, mais quel type d'emploi ? Et la compétition, on en a parlé, elle génère des effets contre-productifs extrêmement importants. Donc, il faut repartir de l'essentiel de ce débat sur le nouveau pacte social qui a commencé dans plusieurs pays et qui consiste à dire l'emploi, par exemple, doit céder la place à une logique d'œuvre et de métier. Vous savez, le mot métier, c'est un mot latin très fort qui a été forgé par le compagnonnage qui veut dire ministère mystérieux. Donc le métier, il renvoie à des projets de vie. Tout être humain est porteur de métier en ce sens-là. Par exemple, le métier de chef de projet de sa propre vie, et c'est l'intérêt de la société que ce métier soit accompagné, découvert, exercé dans de bonnes conditions, parce qu'une personne qui n'arrive pas à prendre en charge sa propre vie, non seulement elle se détruit elle-même, mais les dégâts collatéraux qu'elle va faire autour d'elle vont être très coûteux. Et là, le mot « coût », on peut l'écrire aussi bien « c-o-u-p-s » que « c-o-u-t-s ». Un débat tel que le revenu de base. Hein. C'est la Commission européenne, dans les nouvelles procédures qui font qu'il y a des initiatives citoyennes européennes qui peuvent être prises pour donner lieu à des mouvements de référendums avec des pétitions très importantes sur 1 million de citoyens européens. Eh bien, il y avait une proposition sur le revenu de base par des groupes de citoyens européens qui vient d'être acceptée. Un débat tel que le revenu de base changerait complètement la donne. Parce qu'à partir du moment où vous êtes assuré de ne pas tomber dans la misère, parce qu'il y a un revenu de base et une protection sociale de base pour tous les êtres humains, eh bien, vous pouvez à ce moment-là développer cette logique du métier plutôt que cette logique de l'emploi. Vous pouvez dire la croissance, oui, à une croissance qui va être productrice de biens sociaux, mais non à la croissance qui va générer des flux monétaires liés à des pollutions, des crises ou des accidents. Ça permet de réintroduire dans le débat économique et social une question fondamentale qui est celle du discernement sur la nature des activités, ce à quoi normalement nos outils comptables nous invitent. J'évoque dans le livre le fait que, par exemple, c'est très important de revisiter la notion de bénéfice. Bénéfice, ça ne veut pas dire à l'origine solde monétaire positif. Bénéfice, ce sont les bienfaits qui s'opposent aux méfaits et aux nuisances. Ben, aujourd'hui, toutes nos questions de type développement durable, responsabilité sociale, consiste à revisiter la nature des activités pour développer les activités bénéfiques et réduire les activités nuisibles.
Oui, et c'est pourquoi vous avez intitulé votre livre justement « La cause humaine », c'est-à-dire finalement tout ce que vous dites, les propositions que vous faites reviennent toujours à dire finalement tout ce que nous faisons doit être au service de l'humain, de l'être humain en tant qu'il est sur cette planète et qu'il a besoin de vivre et d'aimer et d'être dans la relation. Parce que le problème, c'est que les débats sur les questions financières ou la croissance ou la décroissance tendent à faire oublier que ce qui est en jeu, ce sont, c'est vous, c'est moi, ce sont des êtres humains qui doivent respirer sur cette planète et continuer à vivre. Je voudrais que vous reveniez un peu sur cette idée-là, l'importance de l'humain et comment l'instiller dans les consciences. Parce que c'est ça, là. Finalement, c'est rien moins que ça. Tout l'effort spirituel que nous faisons, c'est de devenir plus humain. Mais comment instiller cette humanité dans les consciences ?
Mais vous avez plusieurs intervenants au cours de cette même émissions qui l'ont bien évoqué. Je pense par exemple à ce que disait Alexandre Jolien dans son traité de l'abandon, où je pense à ce que Christian Bobin évoquait dans son magnifique livre L'homme-joie. C'est une posture qui casse avec la logique de contrôle, de maîtrise et de possession. Hein, on retrouve ça aussi dans Jean-Yves Leloup, sortir des formes d'amour caractérisées par la possession d'autrui pour aller vers la reconnaissance de l'altérité, la montée vers l'éros. Eh bien, ces éléments-là, c'est ce qui permet de travailler sur le meilleur de l'humanité tout en ayant clairement conscience de l'existence du pire de l'inhumanité. Il faut toujours avoir cette lucidité tragique qui est présente. Parce que ce qui caractérise l'humanité, c'est son ambivalence et c'est le fait qu'elle a aussi bien la possibilité d'être dans des régressions que le monde animal ne connaît absolument pas. L'équivalent du génocide, l'équivalent de carnage, etc. On ne l'a pas dans le monde animal, mais aussi de monter en qualité d'humanité, jusqu'à transformer l'énergie et l'information, qui sont deux éléments présents dans l'univers, l'énergie d'aimantation en amour et l'énergie et l'information en conscience. Bon. Et donc la qualité d'amour et de conscience, la montée en qualité d'amour et de conscience, c'est ce qui caractérise, à mon avis, ce qu'on pourrait appeler le ministère de l'humanité dans l'univers. À quoi sert l'humanité dans l'univers? Quand elle est dans sa phase destructrice, elle est plutôt en deçà du règne animal. Elle ne remplit une fonction ministérielle que quand elle monte en qualité de relation, en qualité d'amour et en qualité de conscience.
N'est-il pas vrai, Marie, que c'est prier pour vous que de lui dire je t'aime en tombant à genoux? N'est-il pas vrai, Marie, que c'est prier pour vous que pleurer de bonheur en riant comme un fou, que couvrir de tendresse nos païennes amours, c'est fleurir de prières chaque nuit, chaque jour. N'est-il pas vrai, Marie, que c'est chanter pour vous, que semer nos chemins de simple poésie? N'est-il pas vrai, Marie, que c'est chanter pour vous, que voir en chaque chose une chose jolie, chanter?
Vous êtes sur France Culture dans les racines du ciel et en écoutant cette prière de Jacques Brel, nous poursuivons notre entretien avec Patrick Vivray à l'occasion de la sortie de son livre La cause humaine, du bon usage de la fin d'un monde aux éditions Les liens qui libèrent. Lélie Envar.
Oui, alors vous citez beaucoup dans votre ouvrage Aimé Césaire, que j'ai donc repris à cette occasion avec un immense plaisir, je dois dire. Parce que c'est vrai que c'est un poète qu'on a qualifié très souvent de poète de la négritude, mais en réalité, et ça revient à ce qu'on disait juste avant, cette belle chanson de Brel, en réalité, c'est un des grands poètes de la condition humaine, je crois. Et quand il parle de la négritude, il ne parle pas d'un homme noir, il parle d'une situation dans laquelle se trouve l'humain à un moment donné. Et à bien des égards, en effet, ce qu'il dit des esclaves d'hier peut s'appliquer aux hommes d'aujourd'hui, quelle que soit la couleur de leur peau, évidemment, et de la situation dans laquelle on vit. Et d'autre part, Aimé Césaire a cette façon un peu prophétique, un peu très engagée, très prophétique, pas un peu, d'aborder la poésie et de faire de la poésie véritablement un lieu où il se passe quelque chose, où il transmet, je dirais, la flamme de la lutte à son lecteur. Et je ne m'étonne pas que vous l'aimiez beaucoup. Voici donc un extrait du cahier d'un retour au pays natal, qu'il a eu beaucoup de mal à écrire d'ailleurs, parce que précisément c'est quelque chose qui a beaucoup travaillé chez lui, ce rapport au monde blanc, ce rapport au pouvoir, et comment réaliser son humanité sans tomber dans la haine précisément. Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Ma voix, la liberté de celle qui s'affaisse au cachot du désespoir. En venant, je me dirai à moi-même, et surtout mon corps aussi bien que mon âme, gardez-vous de croiser les bras en l'attitude stérile du spectateur. Car la vie n'est pas un spectacle, car une mère de douleur n'est pas un proscenium, car un homme qui crie n'est pas un ours qui danse. Ceux qui n'ont inventé ni la poudre ni la boussole, ceux qui n'ont jamais su dompter la vapeur ni l'électricité, ceux qui n'ont exploré ni les mers ni le ciel, mais ceux sans qui la terre ne serait pas la terre, gibbosité d'autant plus bienfaisante que la terre déserte davantage la terre, silos où se préserve et mûrit ce que la terre a de plus terre. Pitié pour nos vainqueurs omniscients et naïfs. Et voici au bout de ce petit matin ma prière virile, que je n'entende ni les rires ni les cris, les yeux fixés sur cette ville que je prophétise, belle. Donnez-moi la foi sauvage du sorcier, donnez à mes mains puissance de modeler, donnez à mon âme la trempe de l'épée. Ne faites point de moi cet homme de haine pour qui je n'ai que haine. Car pour me cantonner à cette unique race, vous savez pourtant mon amour tyrannique, vous savez que ce n'est point par haine des autres races que je m'exige bêcheur de cette unique race, que ce que je veux c'est pour la faim universelle, pour la soif universelle. Elle est debout, la négraille, la négraille assise, inattendument debout. Debout dans la cale, debout dans les cabines, debout sur le pont, debout dans le vent, debout dans le soleil, debout dans le sang, debout et libre.
Patrick Vivret, comme il ne nous reste plus que quelques minutes, je voudrais vous poser une dernière question qui est toute la deuxième partie, qui évidemment résume la deuxième partie de votre livre. Vous vous dites face à la fatalité du système dans lequel on est, face à la sidération dans laquelle on est, il faut redévelopper une stratégie du désir.
Oui, comme souvent, l'origine des mots nous aide. Le mot « désir », il est construit sur l'envers de la sidération. Et quand une situation est bloquée au point que même les victimes n'imagine pas que d'autres voies est possible, là, c'est un état de sidération. Pour sortir de la sidération, il faut l'énergie du désir. Il faut cet éros dont Jacqueline Kellen avait parlé dans votre émission, parce que c'est cette énergie de vie qui d'abord redébloque l'imaginaire et puis ouvre aussi la voie aussi bien à la résistance créative qu'à l'expérimentation anticipatrice. Vous savez, c'est la Boétie qui a développé la thèse de la servitude volontaire où, de façon plus brutale, il y a une phrase qui dit « la principale arme de l'oppresseur réside dans la tête de l'opprimé ». Aujourd'hui, l'une des raisons pour lesquelles nous avons des systèmes de domination, mais qui ne sont pas simplement économiques, le capitalisme est dans l'ordre de la captation de richesses, les despotismes de la captation de pouvoir, et très souvent, les fondamentalismes illustrent ce qui se passe dans l'ordre de la captation du sens. Donc il y a un appel à l'éros qui est aussi un appel à la liberté, à l'émancipation, mais d'une condition humaine qui sait que ça n'est pas une émancipation seulement contre, mais que c'est aussi une émancipation au sens de grandir en qualité d'humanité. Les dialogues en humanité qui sont ces espaces qui maintenant se développent dans le monde entier, puisqu'il y en a à Bahia au Brésil, il y en a à Bangalore en Inde, comme il y en a également en France et en Afrique, disent, et c'est pour ça que nous sommes en lien avec ce formidable programme de l'UNESCO sur Césaire, Tagore et Neruda, il y a un universel de la condition humaine qui n'est pas un universel en surplomb, comme l'universalisme occidental, mais qui vient dire, au cœur même des diversités de la condition humaine, la poésie, par exemple, est un universel. Quand Stéphane Hessel dit « Moi, ce qui m'a sauvé en camp de concentration, c'est la poésie », il dit quelque chose qui est de l'ordre de l'universel, de la même façon que ce magnifique texte de Césaire, il développe ce fond commun de la famille humaine qui est en proie à ce que Camus, dans La Peste, appelait ce pauvre et terrible amour. Comment nous progressons en qualité d'amour, comment nous grandissons en humanité, c'est un point commun, et on le trouve chez Césaire, mais par exemple, on le trouve aussi paradoxalement chez Rosa Luxembourg. Là, on n'a pas le temps de lire ses textes, mais Rosa Luxembourg, à côté de sa dimension politique révolutionnaire, a une dimension écologique, une dimension spirituelle qui lui fait parler de la joie de vivre, alors même qu'elle est en prison, de la même façon que Etty Lezoum était capable d'en parler alors même qu'elle était en camp de concentration. Ça, c'est un éros magnifique.
Et nous terminons cette émission avec un bref agenda culturel, Lélie Anvar.
Oui, parce qu'à l'issue d'une émission avec Patrick Vivray, je ne pouvais m'empêcher de vous recommander d'aller voir à la Comédie Française une représentation théâtrale du Candide de Voltaire. Alors, pour ceux qui ne sont pas à Paris ou qui ne pourront pas y aller, ils pourront aussi tout simplement reprendre le texte de Voltaire qui reste d'une actualité incroyable et qui est une sorte de... je crois, vous ne me démentirez pas, son personnage de Candide qui fait partie de mes grands héros, je m'empresse de le dire avant de vous dire qu'il me fait penser à vous, Patrick Vivray. À la fois dans sa lucidité, dans le fait qu'il veut cultiver son jardin et dans le fait qu'il ne démordra jamais du fait qu'un autre monde, un monde meilleur est possible. Donc c'est au Studio Théâtre de la Comédie Française, c'est une adaptation faite par Emmanuel Domas et c'est une adaptation remarquable parce que les acteurs ne jouent pas toujours leur propre rôle, d'ailleurs ils jouent plusieurs rôles, et ils montrent à quel point ce texte de Voltaire est actuel, et très souvent d'ailleurs il a mélangé au texte de Voltaire des éléments de l'actualité. Quand il évoque les guerres par exemple ou les génocides, il parle des guerres et des génocides actuels pour nous montrer que ce texte n'a pas pris une ride et qu'on peut encore beaucoup réfléchir avec Voltaire sur la question du bien et du mal et sur la façon dont il faut cultiver notre jardin. Et puis la deuxième chose, c'est un film que j'ai vu, et alors je ne pouvais pas ne pas en parler dans cette émission, c'est un film qui s'intitule « Les bêtes du Sud sauvage » de Ben Zeitlin. C'est un film pour lequel il n'y a pas eu beaucoup de publicité. Les acteurs sont d'ailleurs parfaitement inconnus, mais c'est un film éblouissant, et je pèse mes mots, sur la fin du monde, sur le bien, sur le mal, sur la fonte des glaces, sur le fait que quand... la nature est complètement détruite en fait par l'homme, alors c'est le cœur de l'homme qui est atteint. Et l'héroïne de cette histoire, c'est une petite fille de 6 ans qui va tout faire pour rétablir les forces de vie sur la terre. Et elle va, dès le début, elle commence à écouter battre le cœur des animaux, et ce rythme va devenir le rythme du film. Et elle va finalement confronter les aurochs, et c'est là que le film devient complètement fantasmagorique. Et ces aurochs vont devenir le symbole du mal et de la dérégulation précisément dans le monde. Je ne peux pas vous résumer ce film, c'est juste un film à la fois fantastique, écologique, initiatique, et je vous le recommande très très chaudement.
Merci Lélie. Je rappelle très brièvement également, vous pouvez trouver en kiosque le numéro du Monde des Religions de février sur le thème « Trouver sa voie spirituelle », aussi bien au sein des grandes traditions religieuses que à travers l'émergence d'une spiritualité laïque. Et puis Patrick Vivray, « La cause humaine, du bon usage de la fin d'un monde », avec une préface de notre ami Edgar Morin. C'est un livre merveilleux. Merci beaucoup Patrick Vivray de votre optimisme et de votre lucidité.
Merci.
Cette émission est podcastable pendant un an et réécoutable pendant 1000 jours. La semaine prochaine, Jacqueline Kellen viendra nous parler de l'impatience de l'absolu. Dans un instant, vous retrouvez le journal de 8 heures. Très bon dimanche à tous.